Morning Edition from NPR News.
Wenn Sie die Sandpieper hausen.
France Inter, le 18-20.
Les femmes peuvent-elles diriger le monde, ou en tout cas leur monde? Ce sont les premiers mots de la préface d'un livre de photos magnifique, Les Matriarches, un tour du monde de sociétés gérées, dominées par les femmes. Les photos sont signées Nadia Ferrucchi, elle est avec nous. La préface est signée de Laure Adler et vous verrez qu'on traverse le monde entier, mais qu'une société dominée par les femmes n'est pas forcément une question de pouvoir. Le bruit du monde ce soir est sur une île tout au nord de l'Irlande du Nord, une île de 150 habitants qui entend donner l'exemple au reste du Royaume-Uni. Elle sait préserver sa biodiversité, cette île. Rappelons qu'on est à moins d'une semaine de l'ouverture de la COP26. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Hélène Fromanti a trouvé une montée anti-musulmane en Inde après un match de cricket, du stand-up en Russie et des musées autrichiens qui contournent des réseaux sociaux jugés trop prudes. À 18h50, le cinéma en VO avec un film iranien, Le Pardon, qui parle de peine de mort et que Corinne Pellissier vous conseille fortement, vous allez l'entendre. 18h55, c'est Le Monde d'après de Claude Guibal. Et la toute petite Moldavie qui s'oppose à la très grande Russie sur le prix du gaz. Le monde est vasté, on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Nadia Ferrucchi.
Bonsoir.
Vous êtes photographe, vous avez écrit, j'allais dire, ce livre que j'ai entre les mains. Non, je l'ai posé parce qu'il est très très gros et très très large. Ça s'appelle Matriarche aux éditions Albin Michel. Un livre de photos, mais pas seulement, il y a à regarder, mais il y a aussi à lire. Il y a à comprendre aussi ce qui se passe dans ces sociétés-là. C'est le fruit de 10 ans de travail, de recherche, d'immersion. Vous avez parcouru le monde, vous allez nous y emmener. Je disais tout à l'heure que la préface était signée Laure Adler. On parlera du rôle de Françoise Héritier aussi, qui est important dans cet ouvrage. Ce qui est fascinant, c'est que partout où vous nous emmenez, on parle de transmission, on parle de fête, on parle d'organisation, on parle d'héritage, on parle de famille, mais on ne parle jamais de pouvoir. C'est jamais dans ces termes-là que ça se joue dans ces sociétés que vous avez traversées.
Alors, déjà, je vais commencer par dire que le terme matriarcat, c'est un terme où chacun aime bien mettre un peu ce qu'il entend. Il y a beaucoup de fantasmes aussi qui génèrent autour de ce mot, à commencer par moi quand j'ai commencé ce travail. Et un petit peu l'idée aussi des femmes Amazones et tout ça. Alors, c'est pas du tout ça. Ou presque pas, on va dire.
Et même le mot, effectivement, c'est pas le bon, en fait. On va trop vite quand on dit matriarcat.
Exactement. En fait, le vrai mot scientifique, mais qui est moins attirant, on va dire, ce serait matrilinéaire. Donc matrilinéaire, dans une communauté typiquement matrilinéaire, au fait, la descendance passe par la filiation féminine. Donc c'est la femme, la mère qui transmet les terres, la maison, aux filles uniquement.
Pardon, allez-y. Oui, pardon.
Et aussi dans ce même système matrilinéaire, donc le tuteur de l'enfant n'est jamais le père biologique, donc le géniteur à la base, c'est l'oncle maternel qui lui est responsable de ses neveux et nièces. Alors, et ça, c'est dans une société typiquement matrilinéaire.
Et ça fait partie des points communs effectivement qu'on retrouve dans les sociétés que vous nous faites traverser, qui sont pourtant très différentes.
Oui.
Mais c'est intéressant cette différence parce que c'est un peu comme si quand on dit matriarcat, on l'oppose au patriarcat, alors que pas du tout, et c'est même pas là-dessus que se sont construites ces sociétés-là, et ça aussi c'est important de le dire.
Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement dans matriarcat on entend donc à l'inverse du donc patriarcat où l'homme domine, donc espèce de système pyramidal où l'homme est en haut donc de la pyramide, sauf que là dans ces sociétés matrilinéaires, la femme elle n'est jamais dominante, elle est centrale, elle a une place très importante, mais elle ne domine jamais. Il y a un équilibre aussi entre les hommes et les femmes, d'après ce que j'ai vu, pu témoigner, et aussi beaucoup un lien très fort avec la nature aussi.
Alors, et ça aussi, pour finir de tordre les idées reçues, effectivement, quand on ouvre votre livre, on n'est jamais contre les hommes. Enfin, si, une société au Kenya, on y viendra spécifiquement, parce qu'elle est assez vraiment particulière, mais ça n'a rien à voir avec une société construite contre les hommes.
Absolument.
Les hommes, ils sont là, ils sont présents, ils existent, ils sont totalement présents.
Exactement. Et ça, je tiens aussi, effectivement, c'est bien que vous le pointez, parce que j'ai eu quelques critique parfois de gens qui me disent oui, mais ces sociétés sont effectivement contre les hommes, mais donc je leur explique, comme vous dites justement, non, pas du tout. Il y a vraiment un équilibre entre chacun à son rôle, chacun à sa place. Par exemple, au Mexique, l'homme est responsable de l'agriculture et la pêche, donc c'est lui qui apporte la matière brute, et c'est la femme qui le fructifie, donc le marché il est à 100% féminin, le marché c'est que des femmes, et c'est elle qui du coup gère l'économie et la bourse, et jusqu'à même à lui donner de l'argent à l'homme, ce qui l'infantilise. déguise un petit peu, mais
qui était quand même assez savoureux à lire, il faut bien le reconnaître. On le disait effectivement, il y a une vraie différence. On n'est pas dans ces sociétés un peu fantasmées en fait, dont qu'on pourrait avoir ici et là dans les idées, en tout cas qu'on pourrait avoir. C'est pas des sociétés qui sont construites contre, c'est des sociétés qui sont construites avec. Mais est-ce que au départ elles existent en l'état, c'est-à-dire d'où ça sort en fait une société comme ça? Parce que ce qui est fascinant, c'est qu'il y a plein d'endroits où on trouve des sociétés que vous nous avez présentées qui sont cernées par des mondes ultra machistes.
Je pense
à Sumatra par exemple, tout autour, on est vraiment dans un islam même extrêmement rigoriste, etc. Toutes sont cernées. Donc elles sortent d'où en fait?
Prenons l'exemple de l'Indonésie, qui est quand même le pays musulman le plus peuplé,
le plus gros,
au monde,
ouais.
Voilà, et qui abrite donc la plus grande communauté matrilinéaire, pareil, au monde.
6 millions, incroyable.
Voilà, environ 6 millions. Alors, au fait, ce système existe et est antérieur à l'islam. Ça s'appelle l'adat. Mm-hmm. C'était un droit coutumier qui donnait droit aux femmes d'hériter et de transmettre. Et c'est resté. Alors, ensuite, l'islam est arrivé et ils ont su combiner ces deux choses.
Ouais.
Et ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est malgré que dans le Coran, donc la femme, comme vous le savez, hérite un tiers, ben là, c'est elle qui hérite tout.
Alors, comment
uniquement dans cette région de Sumatra. Hein.
Exactement, dans le nord de Sumatra,
dans le nord de Sumatra.
Mais justement, alors, comment elles sortent, comment elles arrivent à perdurer? Je pense aux Mozo, c'est le premier exemple que vous donnez. Elles sont incroyables, ces femmes chinoises, puisque chez elles, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de monogamie,
le mot père n'existe pas. La jalousie n'existe pas, le mariage n'existe pas.
Exactement. Et d'où ça sort, en fait? Comment il y a cet îlot qui existe parfois comme ça?
Comment répondre à cette question? Alors, par exemple, chez les Mosso, ça fait depuis plus de 2000 ans que cette communauté a pu effectivement résister, parce que dans toutes ces communautés vivent, comme vous le disiez tout à l'heure aussi, dans des pays patriarcales. Nous sommes quand même encore aujourd'hui dans un monde patriarcal. Mmh. Et comment elles ont pu résister, c'est un peu la question à laquelle je ne pourrais pas répondre comme ça rapidement. Aussi, c'est important que je dise aussi que je suis avant tout photographe et pas ethnologue. Ouais. Parce qu'on m'a plusieurs fois donné un peu ce titre de spécialiste du matriarcat ou de matrilinéaire, et ça, je tiens à dire que je ne le suis pas. Je reste à ma place de photographe, je suis une raconteuse d'histoire, donc je voyage à travers ces pays, enfin à travers ces communautés, où je reste aussi pas très très longtemps, contrairement aux scientifiques qui étudient une population pendant des années.
Mais ça veut dire qu'elles sont ouvertes, cela dit. Vous avez pu travailler sans trop de difficultés ou c'est pas
alors,
si simple?
En toute modestie, j'ai une facilité d'adaptation. Mmh. Je suis acceptée par les gens assez rapidement. Je suis sympa. Non, mais c'est vrai,
absolument.
Je suis gentille, je suis naturelle, et je pense que ça y fait beaucoup. On me dit souvent que dans mes photos, il y a beaucoup d'humanisme et une certaine gaieté aussi. Je pense que ça fait du bien en ce moment aussi avec tout ce qu'on passe. Et voilà. Et aussi, j'ai toujours un fixeur. Alors, c'est en général un homme. C'est rarement des femmes qui aussi m'ouvrent la porte vers ces familles, quoi, parce que c'est sûr qu'on débarque pas comme ça.
Ce qui est fascinant dans ces endroits-là, vous parliez tout à l'heure de la différence effectivement avec le matriarcat, c'est que on vous renvoie toujours en vous disant mais alors est-ce que ce sont des sociétés féministes? Mais en fait c'est comme si ce mot n'existait pas puisqu'elles n'y ont pas pensé en fait.
Vous avez répondu à la question. En gros c'est ça, c'est-à-dire qu'on me demande souvent est-ce que c'est un travail féministe, alors ou est-ce que je suis féministe. Bon alors déjà féministe, on n'est pas féministe, on le choisit. Oui je suis féministe parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine, parce que je travaille aussi beaucoup sur les femmes, notamment sur cette thématique, mais pas que. En revanche, de leur point de vue, non, je ne pense pas qu'elles sont féministes. En tout cas, elles ne le perçoivent pas comme ça. Il n'y a pas une revendication de quoi que ce soit. Elles ont toujours connu que ça, en tout cas pour celles qui sont anciennes, comme la Chine, chez les Mosso, les Minangkabau en Indonésie, ou les Apothèques au Mexique. Ça a toujours été comme ça, donc la question ne se pose pas. C'est normal.
Qu'est-ce qu'elles vous ont raconté de ce qui se passe? Parce que forcément, ces sociétés-là se délitent peu à peu, parce que les jeunes s'en vont, parce que l'attirance de la ville, ça marche partout comme ça dans le monde entier, parce que les réseaux sociaux, etc. Et on revient difficilement en arrière. Qu'est-ce qu'elles vous disent dans ces sociétés-là de ceux qui reviennent? Est-ce qu'il y en a qui reviennent? Est-ce qu'on se réadapte à cette espèce d'endroit un peu différent? Ou est-ce que, y compris ces sociétés-là, commencent elles aussi à faire entrer, y compris compris les défauts du patriarcat voisin, justement, parce que le monde n'est pas imperméable.
Un retour, je ne sais pas trop. En revanche, ce que je vois, c'est que j'ai peur que certaines de ces communautés vont disparaître.
Les plus vieilles seront parties, en fait.
Par exemple, en Chine, l'exemple du mariage, chez les Mosso, le mariage donc n'existe pas. Lorsqu'il y a eu la révolution culturelle en 66, je crois, le gouvernement chinois a imposé le mariage, donc ils ont dû se marier à ce moment-là, sauf que donc ils l'ont fait, mais pour eux ça n'avait aucune valeur, et ensuite ils sont retournés, donc là il y a eu un retour à leur tradition ancienne. Sauf qu'aujourd'hui, avec justement cet accès à Internet, les jeunes Mosso, que se marier est moderne. Contrairement à nous, c'est plus l'inverse.
Oui, c'est drôle.
Donc effectivement, ils prennent des choses bien et des choses moins bien.
Le seul retour que j'ai vu dans votre livre, c'était chez les Navarro, en fait, aux États-Unis.
Oui.
Et l'une des raisons étant, et c'est très joli, que le cordon ombilical est enterré.
Oui.
Et donc c'est ce qui fait qu'on y retourne toujours, en fait.
Oui.
Mais c'est le seul endroit où on a le sentiment que le retour est inéluctable, de toute façon.
Je ne sais pas si c'est spécifiquement les Navarro. Je crois que c'est les Amérindiens en général, parce que comme on leur a quand même pillé leur terre.
Ouais.
Je pense qu'il y a vraiment cette appartenance à leur terre qui est très importante. Effectivement, ils enterrent le cordon ombilical même peu importe où ils vont, ils reviennent toujours.
Alors, on parlait tout à l'heure de ces sociétés qui sont nées comme ça, ou qui étaient là, en tout cas, depuis très longtemps. Puis il y a celles qui le sont devenues. La plus impressionnante d'entre elles est au Kenya. C'est la seule communauté de femmes. Elle s'appelle les Samburu, si je ne me trompe.
Non, les Samburu, c'est l'ethnie. Samburu et Turkana.
Samburu, c'est l'ethnie,
pardon. Le village, c'est Toumaï.
Et le village s'appelle Toumaï.
Il y en a plusieurs.
Et c'est les seules à s'être regroupées pour échapper à la violence des hommes. C'est un exemple unique.
Oui. Alors aujourd'hui, il y en a plusieurs. À l'époque où moi j'ai été, le premier village, c'était Umoja. Et depuis, il y en a eu plusieurs. Et effectivement, donc, ces femmes ont toutes subi des violences conjugales. Donc, elles ont des histoires un peu compliquées. Et elles ont décidé de se réunir entre elles. Et elles vivent donc avec les enfants qui, alors, les garçons à l'âge de 16 ans doivent quitter le village, peuvent revenir en visite. Donc là, on pourrait parler d'une revendication féministe. Je sais pas trop. En tout cas, elles ont eu ce courage de devenir indépendantes et de se couper des hommes.
Et elles élèvent leurs filles, notamment sans excision, alors que l'excision est encore quand même assez pratiquée autour, etc.
Oui.
Elles sont combien ?
Une centaine à peu près, dans ce village Toumaï.
Et est-ce qu'elles sont en danger ? Parce qu'on voit sur certaines de vos photos qu'elles se protègent pour protéger leurs troupeaux, mais aussi pour se protéger des hommes.
Ah oui, c'est très mal vu, les hommes, les Samburu, les Turkana, les Maasai aussi, c'est un petit peu les mêmes, ils ont un peu les mêmes traditions, ne voient pas du tout d'un bon œil cette façon de faire. Donc oui, elles sont en danger, oui.
Il y a autre chose qui m'a frappée dans votre livre et qui est un fil directeur, alors peut-être que vous n'en avez pas parlé aussi, mais on ne voit jamais de conflit, en fait. Comme si ces sociétés-là étaient débarrassées de cette idée de conflit. Il n'y a rien qui puisse être conflictuel.
Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas ressenti. Alors, encore une fois, c'est toujours pareil. Je l'ai dit en toute honnêteté, j'y reste quelques semaines. Peut-être que si j'y passerai plus de temps, je verrai quelque chose. Alors, il y a un exemple qui n'est pas là, mais qui viendra parce que je compte continuer ce travail. C'est en Inde, à Shillong, chez les Kassi et les Jaintias. Donc là aussi, c'est matrilinéaire. Sauf que là, il y a une petite association, qui grandit d'ailleurs, d'hommes qui se plaignent parce qu'ils veulent eux aussi hériter. Donc là, on pourrait parler d'un conflit. Mais bon, c'est une prochaine étape. Donc, j'en dirai plus dans quelques années.
Lorsque vous rentriez, vous avez eu la chance d'échanger beaucoup avec Françoise Héritier, qui devait d'ailleurs préfacer ce livre, et puis qui est morte un peu avant, juste à peine avant.
Oui, 3 jours avant.
Vous lui avez montré vos photos, vous avez échangé avec elle. Est-ce que vous lui avez appris des choses,
ces
photos-là ?
Non, ça, jamais de la vie. Appris, non, c'est elle qui m'a appris. Elle m'a surtout éclairée sur ce thème, parce que moi, j'étais partie sur le matriarcat au départ. donc, elle m'a vraiment éclairée là-dessus, même s'il y a... différentes écoles là-dessus. La question est un peu divisée sur le pro et le contre matriarcat. Bref, parenthèse mis à part. Françoise Héritier, j'ai eu la chance d'avoir été plusieurs fois chez elle. On a échangé. Non, je pense que ce que je lui ai apporté.
En tout cas, vous lui avez. Je vais reformuler en fait. Pas appris. Je comprends qu'on puisse difficilement dire ça de Françoise Héritier, mais vous lui avez fait découvrir des choses peut-être qu'elle ignorait, qu'elle ne connaissait pas.
Oui, voilà ça. Des communautés qu'elle ne connaissait pas, notamment le Kenya par exemple. c'est quand même un phénomène récent. Et je pense aussi ce qu'elle appréciait, elle me l'a dit une fois, demi-mot, que ben, je lui racontais mes histoires du terrain et elle aimait le terrain, elle ne pouvait plus y aller. Donc je pense que voilà, je la faisais peut-être un petit peu rêver.
Il y a
modestement.
Il y a quelque chose qui est assez frappant aussi. Je pense aux chinoises dont on parlait tout à l'heure, les Mozo, et aussi les femmes de l'île Kinu qui est en Estonie. Pareil, société de femmes, île de femmes, mais ces sociétés sont visitées en fait. Et ça m'a paru à la fois très paradoxal et pourquoi pas, et en même temps très terrible en fait. C'est aussi quelque chose de touristique. À Vienne, on va voir l'endroit où il n'y a que des femmes.
Oui, elles s'en plaignent. Ouais. Elles sont, alors, juste encore, j'aime beaucoup les parenthèses.
Je vous en prie.
Entre Kinu, donc l'île en Estonie, et Ouessant en France, c'est exactement la même histoire.
Ouais,
donc c'est assez rigolo. Mais sinon, oui, effectivement, elles se plaignent que ce truc de matériel, en plus ça est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, donc il y a ce côté un peu folklorique, etc. En même temps, ça les fait vivre aussi, et ça refait vivre aussi leur culture.
Mais du coup, il y a quelque chose d'assez folklorique à l'idée d'aller voir la société de femmes, en fait.
Complètement. Là-bas, oui. C'est spécifiquement là-bas, oui. En Chine aussi, chez les Mosso, hein, parce qu'il y a les par exemple les
il paraît qu'on y va en voyage de noces.
Comment ?
Il paraît qu'on y va en voyage de noces.
Voilà.
C'est ce que j'ai lu dans
votre
livre.
Exactement. Ouais. Lune de miel, alors que voilà, paradoxalement, c'est le pays de l'amour libre.
Alors j'ai été étonné de trouver Ouessant quand même, vous l'avez un peu évoqué, j'ai été étonné de trouver Ouessant là-dedans. Alors est-ce qu'on dit c'est l'ancien Ouessant, c'est le vieux Ouessant qui était une société matrilinéaire?
Là je dirais même pas matrilinéaire, parce que c'est encore différent, parce que là, si vous voulez, là c'est vraiment les hommes qui partaient de longs mois dans les marines marchandes, et donc les femmes se sont retrouvées toutes seules entre elles, et donc elles devaient tout gérer, donc même les tâches qui étaient habituellement attribuées aux hommes, donc par exemple bâtir des maisons, etc. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer les dernières femmes, donc il y en a déjà deux qui ne sont plus de ce monde, qui ont encore connu cette période. Donc maintenant, c'est plus du tout le cas. Oui. Donc là, c'était un peu sur les traces d'un passé où les femmes géraient tout, entre elles, l'économie, la construction des maisons, enfin, etc.
Qu'est-ce qu'il reste, à votre avis, Nadia Ferrouki? Est-ce que ça veut dire, là, vous en avez une petite dizaine, en fait, des sociétés comme celle-là? Est-ce que vous dites que vous pourriez faire le même bouquin à nouveau avec 10 autres? Est-ce qu'il y en a vraiment autant que ça?
Pour l'instant, j'en ai qu'un.
Ah, quand même. J'allais vous demander si on était dans les derniers, vraiment, le dernier îlot.
Non, je pense qu'il y en a encore. Enfin, j'en ai 4 sûrs. Après les autres, voilà, il faut que je reprenne, que je replonge dans mes recherches. Mais je pense que c'est un travail que je ferai jusqu'à peut-être la fin de ma vie.
Donc, le plus tard possible. Vous y envoie ou pas? Est-ce qu'on finit par vous dire, moi, j'en connais une que tu n'as probablement pas rencontrée?
Oui, oui.
Ça existe, le bouche à oreille, dans ce genre de choses?
Oui, absolument. Et ça existe. Il y a mes recherches d'un côté, et puis notamment la Colombie, par exemple. Je le dis, mais j'en dirai pas plus.
Non, mais je vous en prie.
C'est une copine qui connaît très bien l'Amérique du Sud qui m'en a parlé, donc voilà.
Ça veut dire qu'il y a encore des endroits cachés, des endroits cachés de ce genre-là dans le monde. On sera ravis de lire le deuxième tome, on va dire comme ça.
La suite.
En attendant, ça s'appelle Les Matriarches. C'est signé Nadia Ferrouki. C'est publié chez Albin Michel. Magnifique. Les photos sont magnifiques. Je pense aux photos. La photo kényane qui est en couverture est absolument somptueuse. Vraiment.
J'ai créé une petite association. Je veux quand même le dire parce que ce village, c'est vraiment difficile pour eux. Donc il y a 10 ans, j'ai commencé. C'est un peu le précurseur, ce village de femmes. Donc j'ai vraiment un lien très fort avec ces femmes. Et j'ai créé une association et toutes les photos que j'ai pu vendre, parce que c'est un sujet que j'ai pas mal vendu, je leur reverse une partie. Et on a ouvert une petite école, on achète du bétail, etc. Je pense qu'il faut aussi, parce que nous on prend, mais il faut aussi donner.
Et surtout là, particulièrement, où c'est une communauté vraiment très particulière. Si on est à Paris en ce moment, vos photos sont à l'atelier Galerie Taylor, 7 rue Taylor, c'est à Paris dans le 10e. Voilà. C'est jusqu'au 2 novembre. Donc si vous êtes à Paris ou en vacances à Paris, profitez-en. Merci beaucoup.
Merci
Nadia
Ferrouki,
à bientôt.
Merci.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
Le bruit du monde, la suite. Ce soir, ça se passe en Irlande du Nord, dans une toute petite île qui entend servir d'exemple de protection de la biodiversité à tout le Royaume-Uni. Et puis, pour aller jusqu'à 19h, le bruit du monde, la suite sous les radars, Hélène Fromanti.
Et on va monter sur scène à Moscou, Fabienne. Les spectacles de stand-up ont la cote chez les Russes, mais ils sont dans le viseur du Kremlin. Car faire des blagues sur Vladimir Poutine, on l'imagine, c'est assez délicat.
Le cinéma en VO et Corinne Pellissier. Bonsoir, Corinne.
Bonsoir. Un film iranien, Le Pardon, sur le thème de la peine de mort à travers le portrait d'une femme en deux.
Deuillet.
Et le monde d'après, Claude Guibal, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, le monde d'après qui se passe en Moldavie ce soir en plein bras de fer avec la Russie pour des livraisons de gaz. Ça vous fait pas rêver Fabienne, je vous vois sourire et pourtant c'est passionnant, je vous raconte ça tout à l'heure.
Je souris parce qu'on est en fait aussi une société de femmes autour de cette table, je suis contente de le souligner. Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète continue. Du monde ce soir est en Irlande du Nord et même au nord de l'Irlande du Nord. Bienvenue dans la petite île britannique de Rathlin, un bout de terre de 150 habitants, havre de biodiversité et qui s'emploie à montrer l'exemple au reste du Royaume-Uni. L'objectif, devenir totalement neutre en carbone avant 2030. L'île de Rathlin veut être un exemple. Elle a parmi ses habitants des pionniers du climat et le reste, c'est Emeline Vin qui raconte.
Après une demi-heure de ferry, le port de Rathlin apparaît. Surplombé par d'impressionnantes falaises peuplées d'oiseaux.
Plus de 200 espèces sont recensées.
Liam McFall, gardien ornithologique de l'île.
Nos colonies d'oiseaux marins sont d'envergure internationale. 140 000 guillemots, plus de 20 000 petits pingouins. Tout le monde adore les macareux, mais il y en a de moins en moins. Nous avons vu une baisse significative de la population de macareux ces 15-20 dernières années.
Également agriculteur et pêcheur, Liam McFall supervise le travail de conservation sur l'île pour protéger d'autres espèces moins connues et plus menacées comme le râle des genêts. Il n'y a pas que les oiseaux qui subissent le dérèglement climatique. Du vieux bateau de pêche rouge où elle vit, dans le port de Rathlin, Charlie a remarqué les changements de biodiversité.
Cette année, il n'y a pas eu de requins pèlerins. D'habitude, il y en a plein. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de dauphins dans la baie. Et maintenant, nous avons des groupes de 200 dauphins. Des dauphins, c'est super, c'est magnifique. Mais pourquoi sont-ils là? Est-ce que l'eau s'est réchauffée? Est-ce qu'il manque de nourriture ailleurs?
La liste se prolonge. Accumulation de sargasses sur les plages, multiplication des tempêtes, de plus en plus violentes. Alors, l'association communautaire de développement de Rathlin, une sorte de conseil municipal, s'est donné un objectif, devenir neutre en carbone, zéro émission de CO2 d'ici 2030. Comment ? En produisant de l'énergie éolienne et solaire, explique Michael Cecil, président de l'association.
Si nous parvenons à transformer cette énergie en gaz, en hydrogène, alors on peut la stocker et avoir de l'électricité en permanence. Nous sommes en train de voir comment nous pouvons générer cet hydrogène pour l'utiliser pour nos ferries, nos véhicules et le chauffage de nos maisons.
Entre 1992 et 2007, l'île était déjà approvisionnée par des éoliennes devenues obsolètes car trop petites pour que leur maintenance soit rentable. Savoir que ça peut marcher, c'est ce qui motive l'association malgré le manque d'argent et les difficultés administratives. Tout ce qui manque au projet, c'est l'investissement financier.
Nous allons vendre l'hydrogène, en faire commerce. Nous pouvons financer l'investissement initial nous-mêmes, puis utiliser les bénéfices pour rembourser. Mais si le gouvernement nous aide à démarrer, nous pourrions réinvestir les revenus dans l'île.
Premier achat prévu, une flotte de vélos et de voitures électriques pour un usage collectif partagé. Sur l'île, l'écologie est un état d'esprit. Le magasin de souvenirs a déjà abandonné tout plastique. Pour certains, c'est même le cœur de leur business. Kate Burns est la première entrepreneuse de la région à s'être lancée dans la culture de varech alimentaire.
Avec les défis actuels autour de la production alimentaire, c'était une opportunité de produire un aliment qui, plus vous en produisez, meilleur il devient, pour l'océan, pour l'environnement, sans aucun engrais ou pesticide.
En plus, le varech, malgré sa texture visqueuse et faible en calories, est bourré de calcium et d'antioxydants. Comme tout pionnier, l'ancienne consultante a dû tout apprendre. Comment faire grandir le varech, comment le faire pousser en pleine mer. Cette fille de pêcheur est toutefois bien consciente des paradoxes de sa démarche.
Notre bateau possède un vieil engin de tracteur. Nous aussi, nous devons faire quelque chose pour notre consommation d'essence. Ça va nous coûter cher et puis la technologie n'est pas encore au point. Mais évidemment, nous voulons pouvoir aller récolter notre varech avec zéro émission, enfin avec encore moins que zéro émission, avec une émission négative, car le varech absorbe le carbone.
Tous espèrent faire de leur statut de futur modèle écologique un argument touristique et un exemple à suivre pour Kate Burns et Michael Cecil.
Ce qui me motive en partie, c'est de montrer que l'innovation marine n'est pas seulement l'apanage des grandes entreprises, ça fonctionne pour les petites communautés aussi. Rathlin doit être une opportunité de montrer l'exemple.
Ça serait tellement plus simple de ne plus y penser et de laisser quelqu'un d'autre agir. Si nous, à Rathlin, on peut atteindre zéro émission, alors tout le monde peut le faire.
L'association communautaire espère que le gouvernement local va débloquer des fonds pour un projet pilote sur Rathlin d'ici début 2022.
Emeline Vin pour Un jour dans le monde en Irlande. Merci et à très très vite. Le bruit du monde, la suite, c'est Sous le radar et c'est Hélène Fromantin. Et nous commençons, Hélène, en Inde, avec une violente vague d'islamophobie. Une de plus, sur fond de tension avec le Pakistan.
Oui, tout est parti d'un match de cricket. C'était dimanche soir. L'Inde affronte le Pakistan, son rival de toujours, en phase de groupe de la Coupe du Monde. Et à la surprise générale, l'équipe indienne, pourtant grande favorite, s'incline face à l'adversaire pakistanais. Alors cette victoire historique, on l'entend, l'équipe du Pakistan la savoure de retour à son hôtel. Scène de liesse aussi et de joie dans les rues d'Islamabad. Mais du côté de l'Inde, ce n'est pas du tout la même ambiance. Les supporters sont furieux. Et c'est ainsi qu'un joueur indien a fait l'objet d'un torrent de haine sur Twitter. Mohammad Sami, c'est son nom, a été violemment pris pour cible pour ne pas avoir montré son meilleur jeu lors de la rencontre. Et aussi, et surtout, car il est le seul joueur musulman de l'équipe indienne. Rappelons que l'Inde a majorité hindoue et le Pakistan, à majorité musulmane, ont un passif mouvementé, ponctué de plusieurs guerres à propos de la province du Cachemire que les deux nations se disputent depuis l'indépendance de 1947. Sur le réseau social, les internautes indiens ont donc accusé Mohammad Sami, le joueur de cricket, de traître, demandé qu'il soit retiré de l'équipe indienne. C'est allé tellement loin que des vétérans indiens du cricket et des personnalités médiatiques de premier plan ont pris la défense du joueur en ligne. Dans leur tweet, ils ont dénoncé des propos dégoûtants, racistes, fanatiques et exprimer leur soutien envers un champion qui porte l'Inde dans son cœur.
Partons en Russie, où les humoristes font de la résistance face à la pression croissante des autorités politiques.
Les spectacles de stand-up sont en pleine effervescence à Moscou et les vidéos humoristiques engrangent des millions de vues sur les plateformes vidéo comme YouTube. Des shows comiques non censurés alors qu'ils ont été ces dernières années bannis des plateaux télé. Alors là, c'est l'humoriste Pavel Dedichev sur scène dans un bar de Moscou. Dans ses sketchs, qu'on trouve en partie sur Instagram, il tourne en dérision l'action du président Vladimir Poutine. Il fait des blagues sur la corruption ou encore sur la puissante église orthodoxe. Mais depuis l'emprisonnement du principal détracteur du Kremlin, Alexei Navalny, et la répression contre l'opposition qui a suivi, ce type de spectacle, bien que plébiscité par le public, commence à faire tiquer les autorités russes. Lors de leur représentation, il n'est plus rare que certains comiques reçoivent la visite des membres des services de sécurité ou bien qu'ils fassent l'objet de menaces. En août dernier, un comédien accusé d'incitation à la haine a même été expulsé du pays. Alors ces humoristes font attention, ils vérifient leurs blagues auprès de leurs avocats pour être sûrs de ne pas être hors la loi. Mais ils s'autorisent quand même à dire ce qu'ils veulent. Selon certains stand-uppers interrogés par l'agence France Presse, les autorités pourraient accentuer la pression prochainement sans pour autant bannir les spectacles. Ces spectacles qui permettent aux Russes de décompresser dans les bars plutôt que de construire des barricades. Il est peu probable de finir en prison, assure un comédien, même si ça reste une possibilité.
Allez, nous partons pour Vienne, en Autriche, Hélène, où les musées zappent les réseaux sociaux pour mieux se déshabiller sur Internet.
Ah oui, Vienne, la ville mère de nombreux artistes de renom, Chile, Modigliani, Klimt, qui ont tous beaucoup représenté le nu dans leurs œuvres. Mais à l'heure du tout Internet et des médias sociaux, eh bien ça ne passe pas. Certains musées viennois qui voulaient faire la promotion de toiles ou de sculptures dénudées sur TikTok ou Instagram se sont fait censurer. Interdiction pure et simple de publier des photos d'œuvres trop sexuellement explicites. C'est pourquoi l'Office de tourisme de Vienne a décidé d'ouvrir un compte sur OnlyFans, une plateforme connue pour héberger des contenus pour adultes.
It's not question of our
success. On entend là Klaus Pokorny, le porte-parole du musée Léopold de Vienne, au micro de l'agence France Presse. Pour lui, rejoindre OnlyFans n'est pas une question de succès sur les réseaux sociaux, mais une question de principe. C'est comme une guerre avec d'autres moyens, dit-il. Nous nous battrons pour la liberté et contre ceux qui veulent enlever la joie de nos vies. Alors pour profiter de ces œuvres en ligne, il suffit de se créer un compte sur la plateforme pour adultes. C'est payant, $5 par mois. En quelques semaines, il y a déjà eu quelques 1000 inscrits, des abonnés que la ville de Vienne veut maintenant attirer vers les musées, surtout après une année compliquée à cause de la pandémie de Covid. Et pour cela, l'Office de tourisme a trouvé la carotte, si je puis dire. Toutes ces personnes inscrites sur la page OnlyFans peuvent recevoir un billet d'entrée gratuit pour l'un des musées viennois ou bien une carte touristique avec des réductions pour découvrir la ville.
Allez, merci beaucoup Hélène Fromanti. À demain, bien sûr. Vous partez avec un mélange sino-japonais, figurez-vous. Elle s'appelle Li Xianyan. Sûrement que ça doit se prononcer très très différemment. Elle aurait plus de 100 ans aujourd'hui. La chanson s'appelle Plum Blossom.
Oh.
Vous m'amènerez le programmateur, s'il vous plaît, Djoubaka. Elle s'appelle Li Xianyan, Plum Blossom, c'est la chanson sur France Inter. Et c'est pas tous les soirs qu'on entend ça, madame.
France Inter. Un jour dans le monde.
So, we start.
Anna Wachterschluss.
Et dans mieux.
Le cinéma en VO cette semaine est en Iran, deuxième pays au monde où l'on exécute le plus après la Chine. Et on parle, Corinne Pellissier, de ce film Le Pardon sur le thème des erreurs judiciaires. 246 personnes condamnées à la peine capitale l'année dernière, exécutées évidemment pour combien d'innocents? C'est la question que pose le film à travers le portrait d'une famille endeuillée.
Voilà, exactement. Nous suivons ici l'histoire de Mina, une femme iranienne dont le mari au début du film est condamné, exécuté pour un crime qu'il a toujours nié avoir commis. Un an plus tard, la justice se rétracte et convoque Mina pour l'informer qu'elle va toucher de l'argent. 270 millions de tomanes, 5000 euros pour la vie de son mari qui a été enlevé à tort. C'est un film très dur, hein, qui pose évidemment la question du prix de la vie humaine et qui interroge surtout un système de plus en plus contesté et contre lequel Mina va tenter de se battre pour faire réhabiliter la mémoire de son mari. Un parcours évidemment semé d'obstacles.
Alors, de nombreux réalisateurs iraniens, Corinne, régulièrement s'emparent de ce sujet. La peine de mort, on en parlera dans très peu de temps à ce micro même avec Mohamed Rasoulov pour son film Couronné à Berlin, Le diable n'existe pas. Des réalisateurs qui souvent sont interdits de tourner dans leur pays, condamnés même pour leurs films, mais très prisés de la communauté internationale, des cinéphiles aussi, parce que en Iran, on n'a évidemment pas le droit de critiquer le système.
Alors la prise de risque est énorme à chaque fois, les réalisateurs du Pardon, Behtash Sanaya et Mariam Mokadam, ont mis 10 ans à terminer leur projet pour des questions de budget, de sécurité, et aussi parce que cette histoire était très personnelle, l'approche qu'ils ont eue du sujet est du coup très différente de ce qu'on a l'habitude de voir, et interroge véritablement la question de l'erreur judiciaire et surtout de l'irréversibilité de la peine. C'est un film déchirant. Il y a bien sûr le personnage de Mina, mais aussi celui du bourreau de son mari, un juge répenti qui va tenter d'obtenir son pardon, comme l'indique le titre du film. Il n'y aura pas de rédemption possible, évidemment, mais ce film nous montre bien que tout le monde en Iran peut être un jour concerné.
C'est une question que tout le monde dans le pays devrait se poser, y compris ceux qui sont pour la peine de mort, car ces injustices peuvent toucher n'importe lequel d'entre nous, même ceux qui font ces lois, même les juges, leur famille ou leur fils, comme dans le film. Peut-être que cela veut dire que nos lois ne sont pas bonnes, et je ne parle pas seulement de la peine de mort. Peut-être qu'il faudrait faire évoluer le système. Pourquoi ne pas transformer ces peines de prison comme ça après 10, 20 ou 25 ans derrière les barreaux? S'il s'avère que la personne est innocente, elle peut reprendre sa vie.
Le personnage de Mina, c'est ma mère. C'est elle qui m'a inspiré le film. Mon père a été exécuté quand j'étais enfant. Et beaucoup de personnes que nous connaissons, des juges aux avocats, nous inspirent dans l'écriture.
Mais c'est vrai qu'il y a malgré tout encore des gens qui sont pour la peine de mort. Comme chez vous en France, ça fait 40 ans qu'elle a été supprimée. Et pourtant, beaucoup de gens réclament son retour.
C'est pour ça que c'est important d'en parler, de partager nos expériences sur le sujet. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand.
Le film s'appelle Le Pardon au cinéma. Aujourd'hui, un film iranien que l'on vous conseille vivement.
Eh bien, on a entendu estampiller Corinne Pellissier. Merci beaucoup. À mercredi prochain.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Le monde d'après ce soir est Claude Guibal en Moldavie. Claude, tout petit pays, plus petit du continent, même qui fait face à d'énormes pénuries énergétiques. Son unique fournisseur en gaz, c'est la Russie, qui refuse de renégocier ses contrats d'approvisionnement. Un chantage énergétique que dénonce l'Union européenne.
Oui Fabienne, on pourrait presque raconter cette histoire comme cela, l'histoire d'un tout petit pays, à peine plus de 2,5 millions d'habitants. Un tout petit pays situé aux confins de l'Europe, coincé entre la Roumanie et l'Ukraine. Un tout petit pays, vous l'avez dit, le plus pauvre du continent européen. Une de ses anciennes
République soviétique, où la Russie garde d'ailleurs un pied, façon de parler, puisqu'elle occupe avec ses soldats une province entière, la Transnistrie. Alors ça, c'est pour le cours d'histoire. Eh bien, ce petit pays, la Moldavie, vient d'engager un énorme bras de fer avec la Russie.
Alors, racontez-nous ça.
Alors, la Moldavie, comme beaucoup de ses anciennes républiques soviétiques, est toujours sous forte dépendance de la Russie. Elle achète 100% de son gaz à Gazprom, le géant énergétique russe. Le contrat de fourniture, eh bien, il est arrivé à échéance en septembre et au moment de le renouveler, poum, les prix avaient augmenté. Alors, la Moldavie, déjà pas très riche et très endettée, elle doit déjà 600 millions d'euros à Gazprom, a bien cherché à négocier en vain. Le contrat arrivé à terme, la Russie a accepté de le prolonger in extremis de quelques semaines, mais tout en commençant à diminuer ses livraisons. Là, c'est pénurie, usine au ralenti, habitants frigorifiés et Gazprom menace de fermer totalement le robinet du gaz en décembre si la Moldavie ne plie pas.
Donc plus de gaz du tout, évidemment on imagine l'inquiétude des Moldaves.
Oui, alors le Parlement devant ces pénuries a voté l'état d'urgence et autorisé l'État à aller chercher des fournisseurs ailleurs. Et lundi, pour la première fois de son histoire, la Moldavie a acheté du gaz à un autre pays que la Russie, la Pologne. Alors pas grand chose, hein. 1 million de mètres cubes, autant dire que c'est pas avec ça que les Moldaves vont passer l'hiver. Et la Moldavie a appelé à l'aide l'Union Européenne, dont elle ne fait pas partie. Jusqu'ici, la Moldavie faisait en effet partie de la zone d'influence traditionnelle russe, avec ses caciques pro-russes au pouvoir partout, sauf que l'an dernier, élection, et là, eh bien, ce sont les pro-européens qui ont gagné en élisant une présidente, Maia Sandu, et avec elle, tout le Parlement a basculé dans le camp pro-européen.
Pardon Claude, et du coup on comprend mieux les ressorts de cette crise.
Alors oui Fabienne, parce que dans ce contexte, on comprend bien quel est l'enjeu pour la Russie. La Russie qui veut retrouver bien sûr son influence sur son précaré. Moscou, intransigeante, s'appuie sur les arriérés de paiement de la Moldavie pour justifier sa position. Ces pénuries, évidemment, elles mettent en difficulté la présidente et le Parlement, en butte aux inquiétudes des Moldaves. La Moldavie n'a déjà pas d'argent pour payer son fournisseur russe. Alors quel pays pourrait donc accepter de fournir de l'énergie sans garantie d'être payé ? La Roumanie, petit pays voisin, est venue à l'aide, mais elle aussi avec de petits moyens.
Voilà, vous le disiez, on est encore très très loin du compte.
Oui, ça suffit pas. Et le cas moldave vient donc illustrer l'angoisse de tous ces pays de l'ex-bloc soviétique, comme les États baltes, face à la dépendance à l'énergie russe, plus cruciale que jamais dans ces temps de crise énergétique. La Russie, Fabienne, c'est quand même le premier fournisseur de gaz de toute l'Europe. Et cela montre aussi les choix que l'Union européenne doit faire en ce moment où en son sein même, sa légitimité est mise à mal par le Brexit, par l'attitude de la Pologne, celle de la Hongrie. L'Union européenne a annoncé d'ailleurs cet après-midi une aide exceptionnelle de 60 millions d'euros finalement à la Moldavie. Et on voit bien que c'est un grand poker géopolitique qui est en train de se jouer ici, dans ce tout petit pays qui ne pourra pas, quoi qu'il en soit, arriver à l'hiver dans quelques jours sans source d'énergie.
Claude Guibal et Le Monde d'après, merci beaucoup. Claude, à très vite, à demain même. Voilà qui termine la première heure du 18-20. Dans un instant, c'est le journal de 19h présenté par Hélène Philly juste après. Le téléphone sonne. Merci de partager cette soirée avec la nôtre. Ne changez rien.